Christophe Brulé, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes le président d'Inteca Finance. On va parler avec vous, bien sûr, de marchés financiers, de perspectives sur ces marchés. Est-ce qu'on peut, dans ces périodes-là, prendre un peu de recul face à, je dirais, aux variations quotidiennes, difficiles dans certains secteurs, mais quand on regarde les indices, c'est vrai qu'il y a une forte volatilité en ce moment. Est-ce qu'on arrive à prendre un peu de recul en tant qu'investisseur?
Alors, il est très difficile de prendre du recul, même s'il faudrait en prendre beaucoup, par rapport aux variations quotidiennes que l'on enregistre depuis l'été et principalement depuis début août. On a constaté qu'on avait à peu près sur le CAC 40 sur le mois d'août, 60% des séances qui ont des amplitudes de plus de 3%, ce qui est considérable et qui est deux fois plus que le marché américain. Donc, quand on est investisseur sur l'Europe et en particulier sur les sociétés françaises, il est difficile de prendre du recul et il faut regarder ce qui se passe au quotidien puisque les marchés sont un peu déraisonnables en ce moment.
Alors, on pense bien sûr au secteur bancaire, forcément sur ces indices. On connaît le poids des banques dans ces indices. Est-ce que ça a contribué aussi à cette volatilité? Puisqu'on le voit au jour le jour, on peut faire un moins 10, plus 20, moins 10, plus 15 sur une bancaire.
Oui, alors c'est toute la difficulté des indices et quand on est investisseur d'investir ou pas sur un indice et de choisir les valeurs dans l'indice. Donc bien entendu, les financières, 20-25% des indices, notamment du marché français, les financières françaises étant très chahutées, forcément, il y a un impact négatif sur le marché français. Ceci dit, si on prend l'indice allemand qui est moins financiarisé, l'indice allemand sur le mois d'août est celui qui a le plus baissé des craintes d'une récession. Donc oui, le secteur financier entraîne les indices à la baisse, mais ça n'explique évidemment pas l'ensemble de la baisse qui est expliquée également par les autres facteurs, crainte de récession en particulier.
Alors, on a vu beaucoup de réactions à court terme, sur le trading, effectivement, en bourse. On voit des programmes de vente, est-ce que le high frequency trading, donc ces réactions, de très rapides sur ordinateur, là-dedans, comment on trouve une manière d'investir? Est-ce qu'on est obligé de se retirer de ce marché dans ces périodes-là?
Alors, se retirer du marché, je pense, c'est pas toujours une solution efficace parce que le rebond attendu peut arriver justement quand on s'y attend plus et donc se retirer totalement d'un marché, c'est jamais ce que nous on préconise. Après, se mettre en réserve ou à l'abri de tous ces mouvements, bien entendu, donc c'est le choix de titres plutôt défensifs, pas cycliques et peu financiers. Donc là, on protège le portefeuille, faire un peu de cash également en attendant que l'orage passe. Et puis après, il y a une vraie question philosophique que vous menez, enfin que vous lancez en discussion, c'est qu'est-ce que veut dire l'investissement à moyen long terme aujourd'hui pour accompagner la croissance des entreprises quand on a environ 60-70%, on ne sait pas trop les chiffres de volume qui sont passés par des robots, par des gens qui avec ces robots investissent pour quelques minutes, quelques heures. Donc il y a une vraie réflexion philosophique, un vrai débat sur la place de l'investisseur de moyen long terme et de comment peut-il se protéger de ce volume qui est devenu maintenant prépondérant sur les places financières. Et je pense que notre profession, les autorités de tutelle devraient maintenant se pencher sur le sujet si ils ne veulent pas voir déserter les investisseurs de moyen long terme.
On pourrait souligner un des paradoxes, des décisions des régulateurs des dernières semaines en interdisant les ventes à découvert, notamment sur le secteur bancaire et assurance. On voit très bien que cette mesure n'a pas du tout été efficace. Effectivement, en tout cas sur le marché, c'est tout le contraire qui s'est produit.
Oui, alors bon, c'est vrai que les ventes à découvert, c'est un sujet polémique de débat. Il est clair que sur le secteur bancaire, le sujet aujourd'hui, c'est la zone euro, la Grèce et quid du prix des sociétés bancaires par rapport à leur bilan et à une contagion à l'Italie et l'Espagne. Donc, vente à découvert, pas vente à découvert, c'est malheureusement plus le sujet aujourd'hui.
Justement, quand on regarde ces évaluations de marché, on se dit, comme on est dans un contexte un peu particulier, extraordinaire, on ne sait pas, mais cette volatilité, on se dit, parfois on entend le marché est pas cher, mais on se dit, est-ce qu'il est pas cher, véritablement pas cher? Est-ce qu'on arrive encore à évaluer comme on le fait traditionnellement?
L'évaluation traditionnelle, je crois, après 25 ans de marché, elle est derrière nous, hein. L'évaluation traditionnelle avec des PE normatives de 13 fois les résultats, C'est la norme. Aujourd'hui, est-ce que ce PE normatif est valable quand on a une croissance qui devrait être plutôt autour de 0,1% sur l'ensemble d'une zone, la zone Europe en l'occurrence? Et donc, est-ce qu'on n'a pas un PE normatif pour le futur qui devrait plutôt être autour de 10 fois les résultats? Donc, 8 fois, comme on est actuellement sur les résultats 2012, ça paraît évidemment bon marché. Donc, on a envie d'acheter. Après, c'est quel résultat? Est-ce que l'8, avec une baisse de résultats à venir, ça va plutôt être 9, 10 et le marché serait à peu près à son prix. Donc c'est vrai qu'il y a un débat sur ce PE historique de marché et les repères traditionnels des gérants, je pense, sont battus en brèche. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de maisons qui restent assez pleinement investies, malgré tout ce qui est arrivé depuis 2 mois comme mauvaise nouvelle, avec comme indicateur des repères qui me semblent peut-être un peu obsolètes par rapport à la nouvelle donne et à l'endettement de l'ensemble de la planète et donc de sa conséquence sur la croissance.
On a l'impression aussi que, en tout cas dans cette période, hein, toujours, les investisseurs sont focalisés sur les statistiques. Vous parliez de croissance, effectivement, cette croissance qui reste faible, plutôt que sur les résultats d'entreprise, ce qui traditionnellement, effectivement, permettait au marché de remonter quand on voyait qu'effectivement, les résultats d'entreprise, les perspectives des entreprises, finalement, n'étaient pas trop mal.
Oui, c'est la bonne question. La bonne question, c'est effectivement de se demander si la macro qui a pris le devant par rapport aux résultats des entreprises, et donc la macro s'est dégradée depuis le début de l'été, donc cette dégradation a entraîné la forte baisse des marchés. On peut se dire que les résultats des entreprises sont finalement pas si mauvais que ça au deuxième trimestre, et donc du coup le marché a exagéré. Si on regarde ce qui s'est passé en 2008, à l'automne 2008, la macro avait également pris le devant par rapport aux résultats des entreprises, qui avaient fortement baissé derrière. Donc j'espère qu'on n'est pas dans un remake de 2008 et que effectivement le marché se trompe un peu, que la macro certes se dégrade, mais on n'est pas non plus en récession avérée. Donc là, il faut garder également son sang-froid et son calme. Et si on n'est pas en récession avérée, les résultats des entreprises ne suivront pas la pente de 2009 et donc on se rendra compte que le marché a sûrement exagéré par rapport au niveau actuel, et donc les niveaux d'aujourd'hui seraient des bons niveaux d'achat, à la condition que la zone euro continue à exister, bien entendu.
En conclusion, peut-être les principales précautions aujourd'hui entre les investissements sur certains marchés, entre zone euro, États-Unis, marchés émergents. On a vu que les performances, hein, sur les indices, il y a eu une contamination, hein, clairement sur les indices. Quelles sont les principales protections quelque part que vous prenez en disant on ne peut peut-être pas être investi complètement?
Oui, donc depuis, avant l'été, on était relativement prudent dans les portefeuilles. On a continué et amplifié cette prudence pour se mettre à l'abri, se protéger tant que faire se peut. Donc les protections, je pense, ça reste l'internationalisation. Il est vrai que même si les marchés américains émergents ont corrigé, hein, les corrélations de tous les marchés sont quand même très fortes. Donc il y a eu une correction, mais quand on regarde la correction de l'Europe par rapport au marché américain, et notamment avec la remontée du dollar depuis quelques jours, on voit que les actifs de nos clients sont bien protégés, enfin mieux protégés si on est diversifié internationalement. Donc la bonne réponse, c'est d'abord des actions américaines en portefeuille, qui sont valorisés sur un PE de 12. Le marché américain a l'avantage de moins baisser, d'être moins volatile et de parler d'une seule voix, même si c'est compliqué également entre les camps républicains et démocrates. Donc des actions américaines, toujours des actions émergentes, parce que c'est un changement profond, démographique, économique. Et donc je pense que les marchés émergents qui avaient corrigé en début d'année peuvent maintenant avoir un rôle important en portefeuille. Et puis toujours à ce stade, éviter les valeurs financières, les valeurs cycliques, tout en ayant à l'esprit qu'il y a quelques beaux titres cycliques de la cote européenne qui peuvent être entrés en portefeuille. Je pense à Schneider par exemple, des Air Liquide, des Royal Dutch qui ont baissé également. Je pense que c'est des beaux titres dont on peut profiter des baisses pour acheter en ce moment.
Eh bien, merci d'avoir fait ce point avec nous, donc sur ces marchés et puis sur des idées d'investissement dans cette période. C'est pas toujours évident. Merci Christophe Brulé. Je rappelle
Merci
que
à
vous
vous.
êtes donc le président d'Inteca Finance.
Merci.